Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24. Pierre Firsion.
Bonsoir, bienvenue dans Mardi politique. Notre invité ce soir, le trésorier du Front National. Bonsoir, Valorant Saint-Just.
Bonsoir.
Dans la seconde partie de l'émission, il sera longuement question de votre parti, à un an de la présidentielle. Comment le FN se prépare-t-il à cette échéance? Quels sont les thèmes que vous comptez mettre en avant durant la campagne? Vous nous expliquerez également comment vous pensez pouvoir gagner cette élection, alors que Marine Le Pen inquiète toujours une majorité de Français. Avant cela, nous allons vous interroger sur l'actualité récente, et en particulier sur le Brexit et la crise migratoire qui secoue l'Union européenne. À mes côtés ce soir pour vous interroger, Roselyne Fèvre de France 24. Bonsoir Roselyne.
Bonsoir Pierre.
Et Dominique Albertini du quotidien Libération.
Bonsoir.
Allez, avant de parler de l'Europe, débutons cette émission par l'actualité la plus chaude. Les chiffres du chômage pour le mois de mars en France viennent d'être publiés. La situation s'est améliorée puisque le chômage a diminué de 1,7% le mois dernier. 60 000 chômeurs de moins. Votre réaction, Valorant Saint-Just?
Alors, si on regarde, j'ai pas encore eu le temps de regarder tous les chiffres, mais si on les regarde précisément, et il y a pas mal de causes non structurelles à cette baisse du chômage, dans les radiations, les stages, etc., etc. Mais enfin bon, je ne conteste pas les chiffres. Supposons que ce mois-ci y ait une amélioration. Ce qui est un peu agaçant, c'est que tout le monde va dire à nouveau la même chose quand il y a une amélioration et quand ça baisse et quand ça, le chômage monte, tout le monde dit la même chose. Et on voit le gouvernement à un an de la présidentielle qui pointe déjà le bout de son nez en disant les choses vont mieux en France. Alors ces chiffres mensuels du chômage sont intéressants, mais il y a des chiffres beaucoup plus intéressants aussi, beaucoup plus dramatiques. On en parlera peut-être tout à l'heure dans les thèmes de la présidentielle. Mais vous voyez, moi je suis venu avec ce graphique-là, qui lui est véritablement parlant, parce qu'il est sur une longue période, et
alors,
il est structurel.
Alors vous allez nous détailler ce graphique, puisque...
C'est un graphique de la production industrielle, depuis avant la création de l'euro, et depuis la création de l'euro. Avant la création de l'euro. En production industrielle, c'est ça qui crée des emplois, c'est ça qui crée de l'argent, des rentrées fiscales, des rentrées sociales. L'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie, ils sont quasiment tous les quatre sur la même ligne et ça grimpe toujours à peu près. Création de l'euro 2001, il y a un bond, sauf en 2011 de l'Allemagne, mais il y a un bond quand même considérable de l'Allemagne qui continue toujours à grimper. Et la France, l'Espagne et l'Italie, eux, continuent toujours à descendre et sont à un niveau extrêmement bas. Mais surtout, le fossé entre la France et l'Allemagne, c'est extrêmement creusé. Important. Vous savez que sur le plan du commerce extérieur, l'Allemagne a un excédent de 200 milliards d'euros. Nous avons un déficit de 80 milliards d'euros. Comment voulez-vous qu'on continue véritablement en Europe avec une structure européenne et une monnaie qui n'a profité qu'à l'Allemagne? Tant mieux pour les Allemands. Chapeau les Allemands. Mais nous, on a complètement décroché. C'est ça la véritable discussion. Et ça sera, à mon avis, le grand thème de la présidentielle.
Alors la sortie de la zone euro, on y reviendra dans la deuxième partie de l'émission, mais sur les chiffres du chômage là, 60 000 chômeurs de moins, c'est quand même... vous avez entendu le président Hollande il y a quelques jours de cela, qui disait ça va mieux, est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
Non, mais je l'ai dit, il commence déjà à avoir ses langages, on peut pas dire du tout que cette hirondelle fait le printemps, il faut regarder les détails, il faut regarder ça sur une plus longue haleine, une plus longue période, il est faux de dire que tout va mieux. Vous prenez par exemple les chiffres de la pauvreté en France, du niveau de vie et de la pauvreté en France. Ce sont des chiffres qui se sont aggravés et récemment aggravés. Et je crois que le gouvernement va essayer de nous intoxiquer avec cette histoire du chômage. Mais nous leur montrerons les véritables chiffres.
Roselyne Fèvre.
Oui, cependant, quand le président de la République dit « ça va mieux », c'est vrai qu'il y a moins de prélèvements obligatoires, il y a moins de déficits, il y a des emplois créés, 80 000, ça va mieux, c'est vrai, mais si on compare effectivement avec ailleurs, ça va pas mieux. Mais est-ce que vous pouvez noter, cela dit, qu'il y ait ces fameux alignements de planètes qui fait qu'il y a un moment aussi, la France, elle bénéficie de tout cela et de ce dont je viens d'évoquer.
Il n'est pas vrai de dire que la croissance a repris.
Elle frémit. Je
voudrais bien connaître les chiffres exacts. Moi, regardons bien cette production industrielle. Et si on rentre, évidemment, le contrat australien avec les sous-marins, alors évidemment, la croissance va redémarrer. Mais ils vont se suffire C'est ça qui va être très pénible. Ils vont se suffire de quelques petits de chiffres, de quelques petites augmentations, parce qu'on part en plus de très bas pour dire ça va mieux. Alors quoi, vous allez continuer avec nous? Ben non, on ne pourra pas continuer avec vous, car structurellement, la France va très mal. L'Union européenne nous fait beaucoup de mal, et nous devons changer radicalement de politique pour véritablement retrouver, je dis pas le plein emploi, mais une baisse très importante du chômage et une montée très importante du niveau de vie.
Sur la croissance, on était à 1,1% en 2015. Ça prouve que quand même la croissance a un petit peu augmenté. François Hollande a conditionné sa candidature à une baisse du chômage. Est-ce que vous pensez que le chômage va baisser de manière sensible d'ici la fin de son quinquennat et qu'il pourrait être candidat?
Ça, je ne pense rien au point de vue de la baisse du chômage dans les mois qui vont venir. Je ne m'engagerai pas à faire de pronostic. François Hollande, il y a non seulement la courbe du chômage, mais il y a aussi sa popularité qui est extraordinairement basse, qui n'a jamais... Alors, on parle des chiffres du chômage là depuis 10 ans. C'est le président le plus impopulaire de la République française. C'est peut-être ça aussi qui va l'entraîner à ne pas se présenter.
Une dernière question sur le sujet de l'emploi. L'autre bonne nouvelle du jour, hein, sur le front de l'emploi, c'est, vous le disiez, ce méga contrat décroché par le groupe français DCNS pour la construction de 12 sous-marins australiens, ce qui devrait rapporter plusieurs milliards d'euros à cette société et permettre de pérenniser 3 000 à 4 000 emplois. Là aussi, c'est positif, c'est un signe positif.
C'est positif. C'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, d'ailleurs, qui ne doit absolument rien à la construction, à l'Union européenne. Voilà. C'est la France qui s'est débrouillée et qui a, avec son talent, et prendre ce contrat à l'Australie.
Le ministre de la Défense qui a bien négocié là-dessus?
Ah, je pense, oui, c'est certain. Si il est arrivé à ce résultat, c'est qu'il a très bien négocié. Mais j'ai découvert aussi que l'Australie avait besoin d'un nombre important de sous-marins.
Allez, on reste sur l'actualité française avec une question de Dominique Albertini.
Oui, il y a une partie de la jeunesse qui, depuis quelques semaines, se rassemble régulièrement sur la place de la République à Paris, maintenant dans d'autres villes. Ils appellent ça Nuit debout. Ils réclament des changements radicaux dans la façon dont sont menées les choses. Vous, au nom du Front National, vous avez réclamé la dissolution, la dispersion de ces rassemblements, je crois, en expliquant que c'était devenu le centre opérationnel du saccage de Paris. Pourquoi employer ces mots au sujet d'un mouvement qui a pu connaître quelques débordements, mais qui se présente d'abord comme une sorte d'agora où les gens viennent discuter?
On peut faire plusieurs observations. Ce mouvement en lui-même, au tout départ, a pu attirer l'attention. Il est le signe, d'ailleurs, de ce que la politique gouvernementale et les partis institutionnels, les Républicains, le Parti Socialiste, surtout le Parti Socialiste, et même aussi les autres partis de gauche, ne jouent absolument plus leur rôle. Les gens, les jeunes n'ont plus confiance en eux et vont comme ça sur les places publiques. Je fais une petite incise. Le parti pour lequel le plus de jeunes sont proches et ont voté, c'est le Front National. Les chiffres sont tout à fait considérables.
Après l'abstention, c'est effectivement le premier parti.
C'est tout à fait considérable. Bon, il est apparu extrêmement rapidement que ces gens Nuit debout à la République étaient récupérés par des mouvements et notamment par les trotskistes. Il y a eu immédiatement des dérives extrêmement importantes, tant sur le plan des trafics que des heurts avec la police, que de manifestations, etc., etc. Et c'est vrai que moi j'ai demandé, en me mettant surtout à la place, comme je le fais à Calais, comme je le fais dans le 18e arrondissement ou aux côtés du lycée Jean Jaurès dans le 19e arrondissement, en mettant en place de ceux qui habitent dans ce quartier, de ceux qui veulent y vivre, y travailler, prendre les transports en commun, avoir les services publics, etc. J'ai demandé assez rapidement que l'ordre soit rétabli sur la place de la République. Mais j'ai fait la même chose pour le lycée Jean Jaurès. C'est quelques heures après simplement que Valérie Pécresse a réagi. Et on voit bien qu'à l'heure actuelle, à Paris, en Ile-de-France, les véritables lanceurs d'alerte, c'est nous, c'est le Front National
sur Nuit debout quand même, vous limitez ce mouvement, qui est un mouvement de contestation, et vous aviez raison, contre sans doute le gouvernement, vous limitez ce mouvement de contestation à une bande de casseurs, c'est ça ce que vous dites?
Non, pas complètement, mais si vous voulez, c'est devenu très vite squatté, c'est le mot, par les casseurs, et moi je me mets à la place, en tant que responsable politique, de ceux qui vivent, qui travaillent et qui habitent ce quartier. Je peux vous dire que moi j'avais été assez souvent dans le 18e arrondissement, j'ai été autour de la République, c'est devenu jour et nuit, mais nuit surtout, totalement invivable.
Alors, je n'ai pas souvenir, Valérande Saint-Just, que vous ayez condamné avec la même violence, parce que là, les propos sont virulents, les violences commises il y a 3 ans lors des défilés de la Manif pour tous, où là, les dégradations et les interpellations avaient été quand même beaucoup plus nombreuses.
Ou la dissolution de l'Action française quand elle perturbe les événements organisés par des députés PS dans le sud de la France, par exemple.
L'Action française, qu'est-ce qu'elle a fait, malheureusement?
Ils sont intervenus
de façon très bonne. Non, c'est bon.
Mais les manifestations de la manif pour tous.
Mais nous avions dit à l'époque, enfin, personnellement, moi, j'avais dit à l'époque.
Peut-être pas dans des communiqués aussi virulents.
Si j'ai peut-être moins écouté que maintenant, qu'il n'y avait aucune raison de vouloir se heurter avec la police comme cela. Quand il y a une manifestation, on manifeste. Quand il y a l'ordre de dispersion, on se disperse et on ne reste pas sur l'espace des Invalides pour, par principe, se heurter avec la police.
Donc, c'est clair. On n'a pas l'indignation sélective au Front National?
Non, pas du tout.
On s'indigne.
Nous sommes pour l'ordre et la sécurité dans tous les instants et dans tous les compartiments.
Allez, venons-en maintenant à l'actualité européenne. On le voit un peu partout sur le continent. Les partis dits de gouvernement sont de plus en plus contestés. Illustration le week-end dernier en Autriche, où au premier tour de la présidentielle, l'extrême droite est arrivée largement en tête devant un candidat écologiste. Les partis conservateurs et sociaux-démocrates qui gouvernent ensemble depuis 2008 ont été balayés dès ce premier tour. Un résultat d'autant plus inattendu que le pays est plutôt en bonne santé économique. Comment analysez-vous ce résultat?
C'est très impressionnant. Ce qu'il y a de plus impressionnant, c'est le fossé entre le chiffre du 36 ou 37%
30, oui,
du parti qui est analogue au Front National et le suivant écologiste qui est à 20%. Et la débandade totale des partis dits institutionnels, classiques, deviennent. Je crois que malgré leur bonne santé économique, les citoyens autrichiens se sont rendus compte de du caractère très nocif, finalement, pour les nations de la politique de l'Union européenne, notamment sur la question de l'immigration, sur la question des migrants. Les journalistes nous ont dit que quelques semaines auparavant, il y avait eu des incidents très importants dans ce pays-là, et les gens ont vraiment pris ça à cœur. Et je crois que ça nous montre que le thème, un des thèmes principaux, pardonnez-moi si je vais encore un peu trop vite, un des thèmes principaux notamment de la présidentielle en France, parce que c'est ça déjà en Autriche, ça va être entre ceux qui pensent toujours et pour toujours que l'être humain ne peut s'épanouir vraiment que dans un cadre national, et ceux qui ne le pensent pas, qui ne le pensent plus ou qui pensent le contraire. Je pense que les deux théories, les deux thèses, les deux volontés politiques peuvent parfaitement s'exprimer. Elles vont s'exprimer en France dans le cadre de la configuration que nous avons de l'élection présidentielle. Ça sera un débat tout à fait passionnant. Les gens choisiront véritablement. Encore une fois, ça ne sera pas Sarkozy contre Hollande, où ça a été blanc-bonnet contre bonnet blanc. Là, si c'est Marine Le Pen contre X, Y, Z, ça va être Marine Le Pen tenante de la nation, de l'idée, du concept, de la réalité de nation, contre celui ou celle qui ne l'est plus et qui est plutôt tenant d'un abaissement des frontières, de l'importance de Bruxelles et d'une mondialisation débridée, d'une mauvaise mondialisation.
Rapidement, Dominique Albertini.
Pour rester sur le plan européen, on entend que le parti allemand AfD, qui s'est construit notamment sur le rejet de l'euro et qui a fait une percée récemment en Allemagne, pourrait rejoindre le groupe du Front National au Parlement européen. Est-ce que c'est exact?
Je ne sais pas, M. Albertini. Je ne suis pas à l'Europe, je ne suis pas au courant, c'est possible, mais je ne peux pas vous donner d'information, de confirmation, là, à cette antenne.
Alors, on parlait de la crise migratoire il y a quelques instants, et on voit que les partis nationalistes gagnent du terrain sur l'ensemble du continent, conséquence notamment de cette crise migratoire qui secoue l'Europe. Pour tenter de sensibiliser les Européens sur ce sujet, le pape François s'est rendu il y a 10 jours à Lesbos. Le grec devenu le symbole du verrouillage croissant de l'accès à l'Europe. Sur place, il a rencontré des dizaines de migrants et leur a dit ceci.
Le message que je suis venu faire passer aujourd'hui est le suivant. Ne perdez pas espoir. Nous espérons que le monde prête attention à ces situations de besoins tragiques et vraiment désespérés et qu'ils répondent d'une manière digne de notre humanité commune. Nous sommes tous des migrants.
Nous sommes tous des migrants, une phrase prononcée par le pape François sur l'île de Lesbos le 16 avril dernier. En tant que catholique, Valérande Saint-Just, c'est une expression que vous pourriez reprendre à votre compte?
Écoutez, je pense que le pape François est parfaitement dans son rôle, et notamment dans un rôle d'abord, ou en premier, charitable. Mais je crois aussi, parce que j'ai essayé de réfléchir un petit peu, c'est que lui, comme un peu les papes auparavant, surtout ceux qui ont commencé à voyager, essaie un peu d'avoir des messages politiques avec un grand P, je dirais pas métapolitique, mais politique avec un grand P. Et je pense que son message s'adresse à tout le monde. Il s'adresse aux pays européens.
Mais il s'adresse aux pays européens.
Il s'adresse aux pays européens. Il s'adresse aux États-Unis. Il s'adresse aux gouvernements des pays du Proche-Orient. Et il leur dit, en fait, par l'action qu'il mène, par le fait symbolique qu'il va à Lesbos, qu'il embrasse les migrants, qu'il en ramène chez lui au Vatican, par ses actions symboliques extrêmement fortes, il leur dit à tous, faites le nécessaire pour que tout cela s'arrête. Car c'est vrai que la situation est totalement dramatique. Je vois M. Obama venir se congratuler avec Mme Merkel ou faire la leçon aussi à l'Europe en disant « mais vous devez remplir plus vos devoirs à l'égard des migrants » alors que c'est lui le principal responsable de la fuite de ces migrants. Il faut que tout, avec le pape François, il faut que tous ces responsables politiques se rendent compte qu'on ne peut pas aller mettre le désordre en Libye comme on l'a fait, qu'on ne peut pas, pour des politiques à courte vue, qu'on ne peut pas faire la même chose en Irak, qu'on ne peut pas faire la même chose en Syrie avec Bachar el-Assad et qu'on peut, et ensuite
mais là,
fuir
sur le discours,
ses responsabilités.
Là, sur le discours du pape, c'est quand même un appel à l'humanisme. Il appelle à l'humanisme des peuples européens.
L'appel à l'humanisme, il doit être celui de John Kerry, le ministre des Affaires étrangères d'Obama. Là, je le suis. C'est une question de réfugiés, de zones de guerre, et c'est le Haut Commissariat aux réfugiés qui doit faire entièrement et complètement le travail dans ces zones-là, et qui doit empêcher ces réfugiés de quitter comme cela, notamment la Turquie, pour la guerre en Syrie, qui doit les accueillir là-bas, notamment dans la partie sud de la Turquie, les accueillir de façon tout à fait complète et normale et humaine, avec l'argent des grandes puissances à travers l'ONU, mais c'est comme ça que ça doit se faire. On ne peut pas, et le pape François ne l'a jamais fait, on ne peut pas, sans jamais leur demander leur avis, demander aux gens de Calais, maintenant aux Allemands, qui souffrent, au peuple allemand, aux citoyens allemands, aux citoyens du 18e arrondissement, de prendre des charges exorbitantes du service public, finalement. Parce que moi, je n'habite pas le 18e arrondissement, j'habite Boulogne. Je ne subis pas du tout cela. Mais le 18e arrondissement, pourquoi est-ce qu'on leur demande à ça? Pourquoi est-ce qu'on fait vivre aux Calaisiens, depuis maintenant plusieurs années, cette vie qui devient insupportable, qui l'est aussi pour les migrants, mais qui l'est pour les Calaisiens? Et à mon avis, ce message du pape François, il couvre tout ça, et par ses actions symboliques, il nous rappelle à nos devoirs premiers.
Allez, on va continuer à parler de l'Europe. Valéron de Saint-Just est notre invité ce soir dans Mardi Politique. Il nous reste un peu moins de 2 minutes avant la fin de la première partie. Parlons de l'actualité toujours du continent. Le Royaume-Uni va-t-il quitter l'Union européenne? C'est tout l'enjeu de la campagne qui se déroule actuellement outre-Manche. Marine Le Pen a prévu de se rendre là-bas pour faire campagne en faveur du Brexit. Mais visiblement, elle n'est pas la bienvenue. Gisela Stuart, la coprésidente de la campagne officielle en faveur d'une sortie du Royaume-Uni de l'UE, est opposée à sa venue. Elle demande même au gouvernement de lui interdire d'entrer sur le territoire. Votre réaction?
C'est une dame qui est travailliste.
Alors, il n'y a pas qu'elle, apparemment. Nigel Farage, apparemment, n'est pas plus favorable à sa venue.
Nigel Farage, c'est encore autre chose. Il a dit oui, elle peut venir. Enfin, bon. Voilà. Mais il y a une dame qui est travailliste, qui a dit ça. Il arrive maintenant beaucoup, assez souvent à la gauche, d'être très opposé à la liberté d'expression. Il faut que, dans le cadre européen, pour une fois, allons-y, Marine Le Pen puisse aller en Angleterre et puisse faire part de ses opinions sur cette question-là.
Oui,
Une question extrêmement importante. Mais cette histoire du référendum anglais, ça va être tout à fait passionnant. On attend le résultat avec beaucoup d'espoir et de suspense, parce que c'est ce que nous voudrions faire, nous, en France, si Marine Le Pen devenait présidente.
Mais du coup, est-ce qu'elle va maintenir tout de même
la répétition.
Est-ce qu'elle va maintenir, du coup, son voyage, alors qu'elle n'est pas forcément la bienvenue?
Qu'elle le maintiendra. Elle n'est pas bienvenue de la part d'une dame qui veut lui interdire de parler.
Mais qu'est-ce que vous penseriez d'une personne étrangère qui viendrait en France à la veille ou très près d'un référendum très important pour faire campagne en sa qualité
Bertini, on est en Europe. Ah. Ce sont au moins les mérites de l'Europe. Et puis, il n'y a aucun problème. Monsieur Obama vient de venir en Europe et notamment en Allemagne pour nous faire la leçon. Personne ne s'y opposait, sauf moi.
On va reparler du sujet dans quelques minutes. On se retrouve dans un petit peu plus de 5 minutes. À tout à l'heure.
Mardi Politique, en partenariat avec Libération et France 24. Pierre Firsion.
La seconde partie de Mardi Politique, notre invité ce soir, le trésorier du Front National, Valéron Saint-Just. Juste avant la pause, on parlait du Brexit et de la possible venue de Marine Le Pen au Royaume-Uni. Vous nous confirmiez, elle va se rendre là-bas, a priori, à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin?
Je ne connais pas la date exactement, mais elle se rendra certainement là-bas. D'ailleurs, je crois d'ailleurs qu'elle est invitée, sans problème, par des personnalités. Et des choses se passeront certainement bien. Le gouvernement britannique garantira les libertés d'expression de Marine Le Pen. Mais en dehors, si vous voulez, de son voyage, qui est quelque chose d'important, ce qui est vraiment très passionnant, c'est le référendum anglais, qui est une véritable répétition. Et on voit en Autriche, en Angleterre, et un peu dans tous les pays, pourtant, et l'Autriche aussi, que l'Europe... Il y a deux exemples, pareil. Récemment, là, hier ou avant-hier, la libéralisation du rail, le transport des voyageurs en France va être ouvert grâce à l'Europe ou à cause de l'Europe à la concurrence. Bon, nous sommes vigoureusement opposés à ça. C'est la fin du service public du transport des voyageurs en France. On peut être d'un avis contraire. Nous sommes pour le maintien du service, comme les autres, mais notamment de celui-là. C'est une question qui va se discuter pendant la campagne présidentielle. Les OGM... la santé des Français. Le Conseil d'État français vient d'autoriser Monsanto à continuer sa culture des OGM. Et le Conseil d'État français a été obligé de le faire parce qu'il a été obligé d'appliquer la réglementation européenne. Obligé, je n'en veux pas au Conseil d'État français, j'en veux à la réglementation européenne.
Monsanto, c'est interdit en France.
Non,
c'est le seul...
Madame, le gouvernement français avait pris un arrêté d'interdiction. Il vient d'être cassé par le Conseil d'État. Il vient d'être cassé par le Conseil d'État. Monsanto avait fait un recours, ils viennent de le gagner sur la base de la réglementation européenne. Et tout est comme ça.
On va rester sur le Brexit. On va rester donc. Ouais. On a bien compris que
ce sont les exemples pour lesquels, avec lesquels les Anglais vont voter le Brexit.
Alors, justement, si les Britanniques disent oui au Brexit, c'est-à-dire que voilà, ils s'en vont de l'Europe, vous allez applaudir, bien sûr. C'est incontestable, ça va vous donner des ailes. Mais s'ils disent non. Quel argument vous aurez? Vous allez retrouver le bec dans l'eau?
Non, pas le bec dans l'eau. Ce sera peut-être un argument de moins pour nous.
Oui, mais c'est un sacré argument de moins.
Mais non, ce sont les Anglais qui auront fait ça, avec le fait qu'ils sont déjà à la marge de l'Europe. Ils ne sont pas dans l'euro. Et malgré ça, ils veulent. Le gouvernement est obligé de créer un référendum. Ils ne sont pas dans l'euro. Ils auront voulu rester à la marge où ils sont. Bon, voilà. Ça va pas être du tout un inconvénient véritable pour notre campagne, notamment de campagne présidentielle, à l'égard de l'Union européenne.
On voit bien que sur l'Europe, a priori...
Et puis Madame Feff, c'est la démocratie.
Là-dessus, oui, sur l'Europe, visiblement, les Français ne partagent pas votre opinion. 71% des Français, c'est un sondage récent qui a été publié, sont opposés à une sortie de la France de l'Union européenne, et 3/4 des Français sont opposés à une sortie de la zone euro de la France. Est-ce que pour vous, c'est
même... pour préciser, un tiers des sympathisants FN, ce qui est une minorité, mais une minorité importante.
Mais on verra bien les résultats de la démocratie à l'issue de la campagne présidentielle.
La remarque qu'on peut faire au Front National, c'est de faire campagne depuis maintenant des années sur le caractère nécessaire d'une sortie de l'Union européenne et de l'euro, et de manifestement ne pas avoir réussi à convaincre une partie très importante des électeurs.
Vous ne voudriez pas que sur ces sujets essentiels et primordiaux, nous changions d'avis parce que nous n'avons pas encore réussi à convaincre la majeure partie
de est-ce qu'il vous arrive français. De vous interroger sur les raisons pour lesquelles
nous présentons aux élections pour faire passer notre message.
Reprendre...
Et justement, la présidentielle, là, ça va être la mère de toutes les élections.
Pour reprendre votre expression, on peut être d'accord ou pas avec le caractère nécessaire d'une sortie de l'euro. En revanche, on doit constater qu'après des années à en parler, vous n'arrivez pas à convaincre les gens
de
cette nécessité.
Nous allons faire le boulot à la puissance 10, notamment pendant la campagne des présidentielles.
Qu'est-ce qui, dans la manière que vous avez de présenter ce sujet et les solutions, a pu, à votre avis, bloquer, mettre mal à l'aise beaucoup d'électeurs?
Eh bien, c'est qu'on voit, vous citez les chiffres, vous voudrez voir les chiffres antérieurs, c'est qu'on voit. Et l'exemple de l'Autriche et l'exemple de l'Angleterre, parce que le seul fait que Cameron soit obligé de créer un référendum est déjà tout à fait significatif. Ces exemples-là, les 35 000 manifestants à Hanovre contre Obama, contre la venue d'Obama et contre le TAFTA, montrent que la prise de conscience est de plus en plus grande. C'est ça la politique, c'est ça la démocratie. Et à la présidence présidentielle, on sera d'accord avec Marine Le Pen, on votera pour elle, on sera pas d'accord avec Marine Le Pen et on votera pour l'autre, le concurrent de Marine Le Pen.
Il y a notamment une frange de l'électorat de droite, donc les Républicains maintenant, qui ne voteront pas pour vous parce que justement, c'est les petits épargnants, ceux qui ont des bas de laine et qui se disent, oulala, la sortie de l'euro, ça va...
Mais nous arriverons...
Mais comment vous...
Mais nous parviendrons à les convaincre avec la puissance de l'élection présidentielle et les scores attendus
de Marine
Le Pen.
Oui, mais là, c'est des arguments auxquels ils ne...
Mais ils pourront y être perméables et accueillants de plus en plus. Non seulement avec notre puissance de propagande et de persuasion, et avec les faits, qui se présentent là, quand on leur montrera le graphique que je viens de vous montrer, avec cette production de industrielle en Allemagne et en France d'un côté, Espagne, l'Italie, et la chute totale, c'est extraordinaire.
Oui, mais enfin,
jusqu'à présent, vous n'êtes pas arrivé à les convaincre.
Le Pen n'est pas encore président de la République, c'est ce que vous voulez dire.
Mais ça fait longtemps qu'elle fait campagne sur ce sujet-là, c'est ce que je veux dire.
Oui, ça fait longtemps qu'elle a fait campagne sur ces sujets-là, parce que nous faisons campagne sur tous les sujets qui intéressent le plus les Français et qui portent, à mon avis, le plus de tort aux Français.
Alors, justement, on va quitter le sujet de l'Europe et on va voir un petit peu quels sont les autres thèmes que vous comptez aborder durant cette campagne présidentielle. On rappelle, c'est dans un an, quasiment jour pour jour, le premier tour de la présidentielle. Quels sont les autres thèmes, outre l'Europe, que vous comptez mettre en avant durant cette campagne?
Alors, je suis désolé, mais ça va presque à chaque fois aussi concerner l'Union européenne. Les thèmes principaux à un an des présidentielles, de ma part, encore une fois, je l'ai déjà dit, ça va être le cadre, l'existence et même le renforcement du cadre national ou l'abaissement du cadre national. Ça va être Bruxelles ou Paris, la puissance et notamment, par exemple, la réglementation sur les questions de santé. Est-ce qu'on obéit à Bruxelles ou est-ce qu'on obéit à Paris? Est-ce que les tribunaux français obéissent à Bruxelles ou obéissent à Paris? Et sur la question d'immigration, sur la question des clandestins, la question des migrants, Schengen ou pas Schengen, reprise de nos frontières à nous Français ou pas reprise de nos frontières à nous Français. Voilà un an, et compte tenu de l'état de la France et de l'Europe, les thèmes principaux sur lesquels ça va se jouer.
Dominique Albertini.
Il y a au sein du Front National une partie des cadres des élus du mouvement qui juge que l'accent mis par le Front National sur les questions de souveraineté et les questions liées à l'Union européenne est peut-être nécessaire mais excessif et que ça a pu éclipser des thèmes plus traditionnels comme les libertés économiques ou encore l'identité. Est-ce que ces gens-là sont aujourd'hui entendus? Et pour ceux qui ne sont pas au FN, mais qui s'y réuniront fin mai à Béziers, par exemple, est-ce que ce sont des gens dont vous pouvez entendre les préoccupations?
Bien entendu, nous avons même fait des séminaires de 2 ou 3 jours sur ces questions-là.
Début février.
Et il en est ressorti des communiqués approuvés à l'unanimité. Ces questions... sont notamment les questions économiques, macroéconomiques, sont un maniement difficile. On peut avoir un peu de mal à notamment la question de la souveraineté monétaire, l'action de la BCE, l'action de M. Draghi, l'action de la Banque Centrale Française, etc. Ça, on peut avoir un peu de mal. Mais quand on peut s'expliquer complètement, qu'on a le temps d'être un peu didactique et persuasif, les gens s'aperçoivent bien que quand vous parlez des libertés économiques, c'est à cause de cela qu'il n'y a plus de liberté économique. Quand vous parlez des migrants, que vous parlez des questions d'identité, c'est à cause de Schengen que l'identité de chaque nation, que l'identité des pays européens respectifs, que l'identité française s'abaisse à l'heure actuelle, alors que les gens y tiennent énormément. Donc, même à l'intérieur du Front National, la force de persuasion sera très grande.
Est-ce qu'il vous arrive d'envisager que tous les problèmes réels que rencontre la France aujourd'hui aient une autre origine exclusive que Bruxelles ou l'Union européenne?
Eh bien, monsieur Albertini, je suis un peu désolé, mais les grands problèmes, les véritables problèmes que connaît la France à l'heure actuelle ont la plupart comme origine la dictature bruxelloise, l'abaissement des frontières, l'agenouillement devant la mondialisation sauvage, la mauvaise mondialisation, et surtout la concurrence déloyale. La concurrence déloyale, moi, à notre séminaire que nous avions eu au mois de janvier, j'ai beaucoup insisté sur ce concept et cette réalité de concurrence déloyale, ou en tout cas de la loyauté de la concurrence. Et en ce qui concerne les questions d'immigration, de clandestinité, de migration et de sécurité, là, oui aussi, ce sont les accords de Schengen, c'est l'inexistence de nos frontières. C'est ce que nous pensons. On peut ne pas être d'accord avec nous. Mais ça se verra lors de la prochaine élection.
Est-ce que vous pensez qu'en développant tous ces thèmes, Marine Le Pen est assurée de figurer au second tour? On la voit aujourd'hui dans les sondages, elle est régulièrement donnée en
même
tête.
Largement devant.
Alors, à part quand c'est Alain
au Juppé. Premier tour, voilà, premier au premier tour.
Mais on y reviendra un petit peu plus tard quand on parlera d'Alain Juppé. Mais est-ce que vous pensez qu'elle a une chance aujourd'hui de remporter cette élection présidentielle?
Si les faits, les événements continuent à nous donner raison, hein. C'est ce que j'ai dit. En Autriche, il y a eu des événements très graves liés aux migrants dans les jours et dans les semaines qui ont précédé l'élection. On a dit, les journalistes les mieux informés ont dit que ça avait pesé énormément sur le succès de ce parti, et notamment la chute des partis institutionnels. Si les événements continuent à nous donner raison, et si les Français constatent que nous avons toujours eu les bonnes analyses, et que nous proposons des solutions qui leur vont, eh bien oui, Marine Le Pen remportera l'élection présidentielle.
Comment faire aujourd'hui?
C'est d'ailleurs normal. Il n'y a que comme ça qu'elle y arrivera.
Alors,
une adéquation entre les volontés des Français et sa parole.
On voit bien que vos idées progressent dans l'opinion, mais néanmoins, quand on regarde les sondages, on s'aperçoit qu'une majorité de Français rejette toujours votre candidate. Hein, Marine Le Pen inquiète 2/3 des Français. C'est un sondage qui est paru en fin de semaine dernière. Seul 1/3 des sondés la juge honnête, sympathique et ayant la stature d'un président de la République. Comment comptez-vous tenter d'améliorer son image sur un laps de temps aussi court?
Ah, c'est pas aussi court, hein.
C'est pas énorme.
Parfaitement suffisant. Et les moyens qui seront donnés par la campagne présidentielle l'aideront considérablement à modifier, à améliorer cette image qui ne correspond pas. Je comprends bien, d'après ce que je vois les chiffres, il y a beaucoup de gens qui sont inquiets par rapport à Marine Le Pen, mais qui vont voter quand même pour elle au premier tour de la présidentielle.
Mais peut-être pas au second tour. Une question de Rosine Fèvre.
Vous comptez sur quoi, dans le fond? Vous dites les événements vont continuer à nous donner raison. Il y a cet aspect-là, effectivement, mais sur la stratégie, qu'est-ce qui va sortir du chapeau dans quelques semaines, quelques mois, pour la nouvelle stratégie de Marine Le Pen pour la présidentielle? Qu'est-ce qui peut changer au Front National dans la stratégie?
Non, vous lui poserez la question, mais je ne pense pas que rien sorte vraiment du chapeau, sauf un programme présidentiel le mieux fait possible. Je ne pense pas qu'il y aura de nouvelles stratégies. Je pense qu'il va y avoir, par Marine Le Pen, elle administrera la preuve, encore une fois, de ce que les analyses du Front National n'ont jamais changé et qu'elles correspondent parfaitement à la réalité, et que, deuxièmement, les solutions préconisées par le Front National après les analyses qu'il fait sont les solutions qui doivent être adoptées pour changer radicalement dans notre pays. C'est-à-dire changer radicalement sur la question du chômage, sur la question du pouvoir d'achat, sur la question de la pauvreté de notre pays, sur la question de la sécurité de notre pays, de l'identité, de la politique d'immigration, etc., etc. Voilà. La présidentielle, c'est la rencontre, dit-on, d'un être humain, d'une femme ou d'un homme et d'un peuple. Mais c'est surtout la rencontre du programme et des idées portées par cet être humain et les désirs du peuple ou les peurs du peuple ou les volontés du peuple.
Rapidement, pour finir sur ce sujet, l'organigramme de la campagne de Marine Le Pen, on sait, il a commencé un petit peu à prendre forme. Est-ce que Florian Philippot sera son directeur de campagne? On le sait déjà.
C'est prématuré. Moi, je ne vous répondrai pas à cette question aujourd'hui. Je pense qu'on en saura plus à la rentrée des vacances, des grandes vacances. Voilà.
Et est-ce que Marion Maréchal Le Pen sera appelée à jouer un rôle dans cette campagne?
Je pense que, de toute façon, Florian Philippot et Marion Maréchal Le Pen joueront de très grands rôles. Florian a été le directeur de campagne de la dernière fois et ça a très bien réussi. Maintenant, ce sont des questions spécifiques, particulières à Marine Le Pen. Ça, c'est la seule qui pourra répondre.
Allez, il nous reste 5 minutes dans cette émission. Valérand Saint-Just, le trésorier du Front National et l'invité de Mardi Politique ce soir sur RFI. Venons-en à l'actualité judiciaire de votre parti qui est visé dans plusieurs affaires, en cause notamment le financement de plusieurs campagnes électorales en 2012. La justice vous soupçonne, votre parti, Jeanne, le micro-parti de Marine Le Pen et l'un de vos prestataires, Rewald, d'avoir mis en place un système d'enregistrement frauduleux avec de l'argent public. Au total, 10 personnes ont été mises en examen dans ce dossier, dont vous, Valérande Saint-Just, pour recel d'abus de biens sociaux. L'enquête a été récemment validée par la Cour d'appel de Paris. Vous craignez un procès avant la présidentielle dans cette affaire?
Non. Enfin, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais la montagne est en train d'accoucher d'une souris avant d'accoucher d'un non-lieu ou d'une relaxe. Hein. Euh,
C'est une affaire
assez grave. Je vous indique, les médias n'ont pas assez insisté là-dessus à notre goût, mais ni Steve Riwa, ni Marine Le Pen n'ont été mis en examen.
Mais le parti a été mis en examen comme personne morale.
Pardon. Il y a quand même une dizaine de personnes morales ou physiques.
D'accord. Mais moi, écoutez, ce qui m'occupe, c'est le Front National. Alors finalement, il y a deux techniciens, Jalques et Saint-Just, qui sont le trésorier et le spécialiste des élections du parti, qui sont mis en examen.
Et le Front National.
Donc elle est en train d'accoucher d'une souris. Et moi, je suis bien persuadé qu'elle accouchera cette montagne d'un non-lieu, parce que factuellement et juridiquement, le dossier est totalement vide. Et puis, enfin, bon, monsieur Albertini, vous le connaissez, ce dossier. Vous avez peut-être eu la copie intégrale, j'en sais rien, mais on joue sur des sommes. Enfin, bon, voilà, on me reproche...
On parle de plusieurs millions d'euros, quand même.
Non, mais pas pour le Front National. L'abus, le recel d'abus de biens sociaux, parce que moi, je n'ai pas été mis en examen pour complicité d'escroquerie. Par exemple, le juge a dit, mais je comprends parfaitement vos explications, elles sont parfaites, et je ne vous mets pas en examen. Tout a été comme ça. Alors, il reste maintenant une facture de 400 000 euros qu'on prétend être surfacturée, ce qui est faux. Riwal qui m'aurait accordé des délais de paiement. Enfin, tout ça, c'est un peu misérable.
Donc, vous ne craignez pas de procès d'ici la présidentielle ?
Non. Mais s'il y a un procès, on aura une relaxe, c'est sûr.
Rapidement, une autre question, toujours sur les dernières affaires.
Une autre affaire qui concernait l'un de vos conseillers régionaux en Ile-de-France, Axel Lousteau. C'est une entreprise qu'il a créée et dont il reste actionnaire, qui est concerné par l'enquête préliminaire ouverte le 13 mars. On va essayer de résumer l'histoire en disant que cette entreprise est soupçonnée d'avoir viré des fonds ayant servi à payer la caution, 25 000 euros, d'un jeune militant radical incarcéré après la violente agression de l'un de ses camarades politiques. Est-ce que vous avez discuté de cette affaire et de ses implications avec Axel Lousteau ?
Oui. J'ai parlé avec Axel Lousteau, surtout d'après ce qu'on a su que le parquet de Nanterre aurait ouvert une enquête préliminaire. Axel Lousteau m'a parfaitement expliqué qu'il avait prêté pendant 8 jours, je crois, la somme nécessaire à la caution de ce monsieur, à la compagne de ce monsieur, compagne qui travaille chez lui. Voilà. Hein. Ils ont eu besoin pendant 8 jours de cette somme pour ne pas aller en détention préventive et pour payer la caution. Et Lousteau l'a prêté et 8 jours après, elle lui était remboursée.
Les fonds en question venaient de monsieur Lousteau personnellement ou de l'entreprise dont on parle ?
Je peux pas répondre exactement, mais même si elle provient de l'entreprise dont on parle, le fait de faire un prêt pendant 8 jours, si le procureur public de Nanterre considère ça comme un abus de bien social, je veux bien devenir évêque de Brive. Enfin bon, voilà.
Néanmoins, cette affaire démontre quand même une chose. On a beaucoup parlé de la dédiabolisation depuis 2-3 ans au Front National. Axel Lousteau est quand même une figure de l'extrême droite radicale, comme les Frédéric Chatillon. Ce sont tous des gens qui travaillent, qui ont des rôles importants dans l'entourage de Marine Le Pen. C'est ça la dédiabolisation.
C'est ma vie. J'ai été beaucoup entrepreneur dans ma vie. J'ai eu beaucoup de salariés, etc. Mais j'ai passé ma vie à les aider dans des coups durs. Et des coups durs d'être pris dans une affaire comme celle-là. Même si on est coupable et qu'on a une caution à payer, ben, si on peut filer un coup de main, on file le coup de main. Voilà, sans entraver, sans faire la moindre illégalité. Et l'argent revient immédiatement. Moi, j'ai passé ma vie à faire cela.
Mais au-delà
pas
de cette
en
affaire,
tant qu'avocat, hein, mais en tant que... Voilà.
Au-delà de cette affaire, de voir des figures comme Frédéric Chatillon et Axel Lousteau, qui sont des figures de l'extrême droite radicale, être dans l'entourage de Marine Le Pen, alors qu'on a beaucoup parlé de dédiabolisation, est-ce que c'est
mais
pas
non,
un peu contradictoire ?
Depuis que Axel Lousteau ou Frédéric Chatillon travaillent avec Marine Le Pen, ils n'ont travaillé que comme professionnels. Et moi, je suis désolé.
Pardon,
Axel Lousteau.
Axel Lousteau est conseiller régional comme
vous. C'est ce que j'allais dire. Axel Lousteau, lui, il a exprimé le désir de faire campagne, d'être élu, de devenir conseiller régional d'Île-de-France. Alors, pour un personnage de l'extrême droite radicale, ben moi, j'en veux bien des comme ça, qui se soumettent perpétuellement, finalement, aux lois de la démocratie. Voilà, c'est ce que je connais et ce que je sais d'Axel Lousteau.
Merci beaucoup, Valéron Saint-Just, d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de Mardi Politique. La semaine prochaine, à votre place, ce sera le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur qui sera là. Richard Rifono était cette semaine à la réalisation de Mardi Politique. Merci à lui ainsi qu'à Charlotte Lalanne et à Audrey Yatoni qui ont préparé cette émission. Bonne semaine à tous à l'écoute de la Radio du Monde.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France, ou sur notre site internet www.rfi.fr.